Bien, bonsoir. J'ai le plaisir de vous inviter un petit voyage, un peu dans le temps, puisque hélas, beaucoup d'ateliers que je vais vous montrer ont disparu. Et beaucoup plus évidemment dans l'espace, puisque je vais vous inviter à faire un petit tour, loin d'être exhaustif évidemment, des différentes techniques de façonnage des céramiques dans l'artisanat traditionnel. Était évidemment l'argile qu'il faut extraire, puisque l'argile est une roche tendre, mais évidemment elle se trouve généralement dans le sol. Et vous avez là une représentation du 6e siècle sur une des tablettes de Pentescoufias d'un sanctuaire grec, où l'on voit justement les potiers en train d'extraire cette argile dans une cavité suffisamment profonde pour qu'il y ait nécessité d'avoir une lampe. Mais l'argile peut s'extraire encore aujourd'hui, évidemment, comme ici, en effet, dans des puits, des petits tunnels, puisque là, on va chercher les parties non altérées de l'argile, qui est extraite dans des paniers. Alors, sur d'autres gisements, on peut évidemment exploiter là, à ciel ouvert sur des surfaces plus importantes, toujours au Cambodge, alors que dans ce village du Mali, c'est dans le lit de la rivière asséchée que l'on va prélever l'argile, et dans l'autre village du Mali, chez les Dogons, c'est simplement dans les caveaux gréseux que l'on va ramasser l'argile qui subsiste entre les blocs, qui s'est déposée entre les blocs. Donc vous voyez qu'il y a des cas de figure tout à fait différents, et pour les archéologues, évidemment, puisque je suis archéologue et là je parle aussi pour les archéologues, lorsqu'on essaie de déterminer les endroits où ont pu être extraits les argiles, c'est toujours assez difficile de trouver l'emplacement, puisqu'il n'y a pas besoin de très grands gisements d'argile comme ceux qui sont indiqués sur les cartes géologiques pour trouver suffisamment d'argile pour la fabrication. Alors ça peut être à ciel ouvert, comme on a eu précédemment, ça peut être aussi dans des puits, et également dans de très importantes carrières, comme celle de Fès que l'on voit en bas à gauche, où là on a des gisements d'argile qui sont des argiles marines déposées sur plusieurs centaines de mètres, et carrément on rentre en camion dans ces argilières, avec évidemment les risques d'effondrement qui peuvent se produire quelquefois. Une fois extraite, l'argile doit être séchée, ça c'est indispensable, puisque si on veut qu'il s'agisse de la laver ou de la tamiser, enfin de la broyer, ce sera beaucoup plus facile une fois qu'elle sera sèche, qu'on aura éliminé l'eau tout simplement du sol. Donc on l'étale tout simplement, puis on la broie, souvent de manière mécanique avec des gourdins, comme on le voit ici dans deux ateliers de l'Atlas. Alors qu'au Cambodge, on utilise carrément des pilons, les mêmes d'ailleurs qui servent à broyer le riz pour faire des pâtes, pour transformer le riz en pâte dans lequel on fera les nouilles de riz. Donc avec un système de balancier, là, on voit. Puis après, l'argile est tamisée, là aussi, puisque après le broyage, intervient généralement le tamisage, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que vraiment le lavage de l'argile, qui lui va demander beaucoup d'eau. Et là, on voit dans cet atelier du sud du Maroc des fosses qui servent tout simplement à faire tremper l'argile après qu'elle ait été broyée et tamisée, pour éliminer évidemment les éléments les plus grossiers. Alors, dans le cas de Fès, que l'on voit ici, ou de l'atelier de Meknès, qui est voisin, on a la chance d'utiliser ces argiles marines, qui sont des argiles très fines, des argiles à faïence, que l'on utilise en terre franche. C'est-à-dire que là, pas besoin de les broyer, ni de les tamiser. Simplement, on fait tremper les blocs d'argile après séchage dans l'eau. Et à droite, ben, on recycle tout simplement, là, on recycle toutes les chutes des carreaux en terre cuite. Puisqu'ils n'ont pas été cuits, évidemment, on peut les remettre dans l'eau et recommencer la préparation. Voici toujours à Fès, on voit les fosses de trempage à l'arrière et on a trois stades de séchage, de ressuage de l'argile après qu'elle ait été extraite de ces fosses. Alors le lavage de l'argile, lui, et le tamisage par gravité, pourrait-on dire, se pratique dans des bassins. Voici un exemple de l'atelier de Roussillon en Isère, qui il y a peu encore, continue d'ailleurs à fabriquer son argile, mais beaucoup moins qu'avant, utilise aussi maintenant de l'argile espagnole, par exemple. Mais c'est un des rares ateliers qui avait encore sa carrière et préparait son argile. Alors l'argile est, après ses sages, délayé dans le bassin que l'on voit à l'arrière-plan, qui au départ comportait simplement une rame et qui a été motorisé à la fin du 19e. Et la barbotine obtenue est dirigée avec une gouttière dans un bassin. Et au lieu d'avoir deux bassins successifs, on aménage simplement un petit bassin de rétention avec des briques posées sur champ. On a pris soin de répandre de la cendre sous le fond du bassin avant pour éviter évidemment que l'argile ne colle lorsqu'elle va commencer à sécher. Évidemment, ça se fait en plein air, de préférence en été. Après un marquage avec un bâton de l'argile qui commence à sécher, le séchage fait que ça va se fendre de manière régulière, ce qui est beaucoup plus pratique pour récolter les pains d'argile. Alors on voit très bien dans le bac de rétention qu'on a essentiellement du sable qui s'est déposé. Il y a juste un petit accident, là, une fissure qui n'a pas respecté le carroyage qui avait été dessiné au bâton. Suivante. Alors on connaît pour l'Antiquité ces bassins pour la décantation de l'argile et qui eux présentent généralement un fond avec des tuiles romaines avec les rebords en haut. Ce qui peut paraître surprenant, mais peut-être faudrait faire là aussi un peu une archéologie expérimentale. Peut-être est-ce dû au fait que l'argile pourrait peut-être se fendre en suivant justement les lignes dessinées par les briques, jouer le même rôle que le carroyage fait au bâton. Bon, enfin ça n'a pas été testé. Alors l'argile, une fois tamisée, peut évidemment être utilisée telle qu'elle. Mais si on trouve que l'argile est trop grasse ou que l'on veut faire des céramiques culinaires et qu'on veut augmenter leur résistance au choc thermique, on va dans ce cas-là ajouter un dégraissant. Et là aussi, c'est beaucoup plus facile de faire ce mélange quand l'argile est encore en poudre, de mélanger deux poudres, mais on peut aussi l'incorporer directement. C'est ce que fait ici cette potière, et évidemment, la poterie ressemble beaucoup à la cuisine. Et là, il n'y a pas beaucoup de différence dans les gestes entre la fabrication du pain et la fabrication de la pâte céramique, puisqu'elle avait dans la première grande jatte l'argile en poudre. Dans la seconde, elle a la chabotte, c'est-à-dire l'argile cuite broyée, qui correspond à des pots anciens qui ont été cassés. Et elle va mélanger, elle va incorporer les grains de chabotte dans sa pâte, de la même manière qu'elle incorporait des grains de cumin, par exemple, dans une pâte à pain. Et l'on voit ici, dans cet atelier du Mali, le broyage de la chabotte voilà, sur une petite meule en pierre, tout simplement, avec un galet. On écrase les tessons pour fabriquer la chabotte. Alors, une opération très importante et qui est universelle, qui se pratique exactement de la même manière sur toutes les latitudes, ça va être le marchage de l'argile, qui se fait en spirale à partir du centre vers l'extérieur. Et on le voit ici à Fès, on le voit au Mali, On le voit évidemment dans tous les pays du monde et de tout à fait de la même façon. Alors concernant le façonnage, les techniques là sont beaucoup plus variées que par rapport à la préparation de l'argile, tout pour la préparation de l'argile. Je vois qu'il manque une photo. On voit sur la précédente justement un cas de figure qui est l'atelier installé directement sur les gisements d'argile. Et là, c'est remarquable parce que le four, les pots, les maisons, tout ça est fait avec le même matériau. Alors, une technique de modelage qui est bien connue, c'est évidemment le colombin, qui est utilisé seul souvent pour des très grosses pièces, mais avec là aussi des gros colombins. Et une manière de coller les colombins qui est toujours la même, mais qui est rendue possible par la qualité de l'argile, par la préparation de l'argile. Si on essayait de faire ça avec de la terre du commerce, de la terre industrielle, on aurait beaucoup de mal à coller des colombins, comme on voit faire ici par simple pression. Ou à Cornos, la même technique est utilisée hein, pour faire ces grandes ces pitoyes. Alors, autre technique qui est beaucoup moins usitée, c'est le montage à la plaque. Donc, ce sont carrément des galettes d'argile qui sont empilées les unes sur les autres, et à la grande surprise, eh bien, ça tient. Il n'y a pas de fissure lors de la cuisson, là où ont été superposées les galettes. Et là aussi, évidemment, c'est dû à la qualité de l'argile. Donc là, c'est l'atelier où vous voyez préparer la chamotte tout à l'heure. Suivante. Voilà donc cette cruche qui va être terminée au colombin. Quand même, le col, lui, est fait au colombin. Les anses sont ajoutées et... il faut à peu près un peu plus d'une vingtaine de minutes pour fabriquer cette jarre. Alors beaucoup de techniques, enfin beaucoup de fabrications consistent à partir d'une plaque, monter la paroi avec colombin. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut évidemment utiliser un support qui sert à la fois à déplacer les pièces, de même que sur le, on utilisera des rondeaux sur le tour, et qu'on peut aussi faire pivoter plus ou moins sur un support. Et alors ce qu'il faut noter, c'est que ces potières qui font du modelage travaillent quand même une vingtaine de pièces par jour au minimum, et on travaille sur plusieurs pièces à la fois. C'est-à-dire que pendant qu'un pot, que le colombin qu'on vient de poser sera fermé un peu, on attaque la pièce suivante et ainsi de suite. On n'attend pas d'avoir fini un vase pour en attaquer un autre, ce qui donnerait une production évidemment beaucoup plus étalée. Autre exemple, toujours au Maroc, de la fabrication de grands plats, où avec un simple colombin et une grande plaque d'argile, la potière fait des grands plats en 5 minutes à peu près. Ce qui est beaucoup plus rapide, pratiquement, qu'au tour. Autre technique encore qui est très répandue, notamment en Afrique, mais pas seulement, consiste à utiliser des moules, à façonner donc le fond du pot, pardon, en battant une plaque d'argile sur cette forme, qui peut être d'ailleurs des vases cuits déjà utilisés ou des formes spécifiques, comme c'est le cas ici. Là, on a fabriqué des moules exprès, mais dans d'autres ateliers, on utilise simplement une jarre qu'on retourne. Et évidemment, cette ébauche va être terminée au colombin. Aussi la même chose dans un atelier qui lui va faire des grandes jarres à eau. C'est aussi l'atelier qui est bien connu pour des céramiques vernissées vertes, des céramiques à glaçure plombifère, dans le sud du Maroc. Alors cette technique est aussi largement utilisée au Mali pour faire des canaries. Voilà, donc on obtient comme un œuf à la coque qu'on va compléter au colombin. On ajoute un renfort avec un boudin d'argile dans la partie au milieu du ventre de la pièce, qui est la partie la plus fragile, qui risque de subir des chocs. Donc là, la potière tourne autour du vase. Alors, autre technique qui cette fois-ci est quand même limitée à l'Asie du Sud-Est, peut-être aussi, je crois, en Afrique du Sud, il y a quelques ateliers qui pratiquent ça, qui est un travail repoussé. Alors, donc, d'abord creuser un cylindre. Là aussi, la technique a changé avec le temps, parce que des enquêtes faites dans les années 60 montrent que les potières faisaient une grande plaque qu'elles roulaient pour faire le cylindre. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas dans cet atelier-là, elle creuse la motte pour faire ce cylindre. Donc là, le support est un tronc de cocotier, donc de palmier. Et la potière va d'abord façonner la lèvre avant de former la ponce. Et c'est assez impressionnant de voir qu'avec un seul geste, elle crée à la fois la lèvre, mais aussi le ressaut à l'intérieur qui va supporter le couvercle et une gorge sur le bord de la lèvre. Et le tout étant d'une extrême régularité qui fait qu'on ne verra pas la différence avec une pièce tournée. L'étape suivante consiste, la photo suivante, à déformer avec le battoir, évidemment un contre-battoir, la ponce de manière à lui donner une forme sphérique. La ponce est lissée, décorée, et ce sera dans un dernier temps qu'on va façonner le fond, après évidemment un raffermissement de la pâte. On va la poser quelques temps au soleil. En protégeant la partie basse, puisqu'il ne faut pas qu'elle sèche, elle, si on veut pouvoir, évidemment, le... Mais il faut que le pot soit quand même suffisamment solide pour pouvoir être manipulé, être posé sur les genoux pour l'opération qui va permettre de fermer le fond du vase en repoussant l'argile, toujours au battoir. Alors pour céder, évidemment, les potiers utilisent souvent l'instrument permettant de faire pivoter la pièce, qui est évidemment plus pratique que de tourner autour du pot. Et on va voir, il y a toute une gamme, évidemment, des tournettes qui n'ont pas du tout de... qui ne gardent pas une force, une énergie cinétique, des choses qui permettent quand même de façonner en faisant tourner la pièce, jusqu'évidemment au tour, qui lui va permettre de monter le bout en chaîne d'argile. Bon, les tours à main apparaissent très très tôt, sur un pivot central, et là on a des représentations sur des reliefs égyptiens, mais également sur des statuettes comme celle que vous voyez ici, qui date de 2500 avant Jésus-Christ, et on voit très bien ce geste qui là aussi est universel et qui se perpétue sur ces petits tours. Si on est droitier, évidemment, si on est gaucher, le geste va être inversé, mais pour un droitier, c'est on actionne le tour avec la main gauche et on factionne avec la main droite. Ce qui permet évidemment de faire des petites pièces, mais ne va pas permettre de faire de très grosses pièces. Et c'est ce geste qu'on retrouve encore aujourd'hui donc, sur le potier marocain. Et la position très très basse permet éventuellement de céder aussi au pied, sans que ce soit pour un temps, pour autant, ce qu'on appellera évidemment un tour à pied. Mais la position est très pratique pour ça. Alors ces tours à main ont été en usage en Europe, le sont encore dans certaines régions, en tout cas il y a peu en Espagne et au Portugal, mais c'était aussi le cas en Bretagne, ça a été aussi le cas dans beaucoup de régions de France jusqu'à l'orée du XXe siècle. Donc pour faire des pièces qui sont généralement complétées au colombin ou qui permettent de faire du colombin tourné. Alors c'est ce qui se faisait en tout cas à l'époque où j'ai fait ces photos, à Cournos, où les potiers utilisaient une tournette carrée, et pour façonner ces jarres, ces cruches, pardon, elles commençaient par creuser une motte. Alors elles utilisent une terre extrêmement molle. Donc creuser une motte, la compléter au colombin, tourner les colombins, et la terre étant extrêmement molle, elles sont obligées de mettre une ficelle autour, ce qui va d'ailleurs créer un semblant de décor, mais qui est destiné simplement à empêcher que le vase ne s'effondre, enfin ne s'abose, on dirait, à Lyon, sous son propre poids. Et le fait que la tournette soit carrée fait qu'éventuellement elle cède aussi avec le pied, parce qu'il y a évidemment une meilleure prise. Alors ça, c'est un exemple qui est très particulier et qui est, à mon sens, assez unique, parce que jusque-là, on a vu bon, des ateliers essentiellement féminins, et là, on est sur un site où on a des hommes et des femmes qui fabriquent de la poterie et qui utilisent le même outil, à savoir un tour à main, mais les femmes l'utilisent comme une tournette et les hommes font véritablement du tournage avec. Donc ça, c'est quand même un cas tout à fait intéressant et unique à mon sens. Enfin, unique dans mes connaissances. Donc là, vous voyez que le vase, c'est une galette qui a été complétée avec un colombin. Et là, il n'y a pas d'énergie cinétique. On régularise simplement en faisant tourner le volant. Alors que dans l'exemple suivant, enfin, la photo suivante, pardon, là, on tourne véritablement. Et s'il s'agit de grosses pièces, eh bien, on a besoin d'un aide qui va mouvoir le volant. C'est ce qu'on voit très fréquemment représenté sur les céramiques grecques à vernis noir et à vernis rouge, puisque les Grecs ne connaissaient que le tour à main, que ce type de tour. Ce qui était le cas aussi d'ailleurs jusqu'à la fin du 19e pour tout l'Extrême-Orient. Tout ce qui est céramique chinoise et céramique japonaise, ces magnifiques porcelaines étaient faites au tour à main. Et voilà des exemples indiens cette fois-ci. Là que je n'ai pas vu, là c'est tiré d'ouvrage. On retrouve tout à fait le même système de tour à main utilisé avec une aide. Et voilà un exemple qui est plus un clin d'œil d'un tour à main actionné au pied, mais ça reste un tour à main. Bon. Simplement que pour des grosses pièces, l'aide préfère utiliser les pieds. Alors les structures des tours à pied, puisque là il s'agit de tours à pied, peuvent être évidemment très rustiques, utiliser simplement un trou avec un bâton jeté d'un bord à l'autre qui permet de maintenir l'axe du tour. Donc là cette fois-ci il y a un volant et une girelle, c'est vraiment la structure du tour à pied avec ces deux volants. Alors, évidemment archéologiquement ça ne laisse pas beaucoup de traces, ce genre de choses. Il faut les chercher. Alors là, on a en haut ce qu'on pourrait appeler un tour à pied, mais on voit bien, vu la taille du volant, il faut actionner la meule en permanence. Donc c'est plus une tournette améliorée, c'est en tout cas un tour lent, évidemment, qui ne va pas permettre de faire des grosses pièces. Et là, on va plutôt tourner du colombin, enfin égaliser, écraser un peu les colombins en utilisant cet outil. Alors ça, c'est un exemple de tour à pied avec un bâti hors sol, mais ça c'est une invention tout à fait récente, et c'est pas du tout la tradition des potiers marocains. Et donc là on voit qu'on est en train de façonner à partir d'une forme et des colombins, on va façonner en fait des ruches. Ce ne sont pas des jarres, ces gros récipients vont servir de ruches. Une fois fermée une extrémité, on aura percé le trou. Alors les vases, une fois façonnés, après l'ébauchage, peuvent être considérés comme terminés, mais on peut aussi les retravailler. Bon, ça c'est le tournassage que l'on voit ici pratiqué dans un atelier de l'Atlas marocain. Un très bel atelier dont j'ai bien peur qu'il ait disparu aujourd'hui. Donc là, ce sont des photos des années 80, et que déjà au dernier voyage, il n'y avait plus beaucoup de traces d'activité dans ce village. Alors un exemple, cette fois-ci très particulier, atelier où les potiers font un très beau tournage, enfin des grosses pièces, là c'est vraiment du tour rapide. Ce qu'on ne voit pas là, c'est que le fond est extrêmement épais, et le fond qui est en tronc de cône inversé va être déformé pour avoir une forme davantage arrondie, Et après cette première déformation, telle qu'on le voit à gauche sur la photo d'en haut, le fond est taillé à la serpette de manière à obtenir des vases à la panse complètement sphériques. Avec cet aspect modelé, tavelé de la paroi, parce que tout le temps de l'opération, le potier tape la paroi avec ses doigts pour, à l'élasticité, reconnaître l'épaisseur, de manière à avoir des peaux d'une épaisseur tout à fait régulière. Il faut en enlever, mais ni trop, ni trop peu. Et ça donne cet aspect assez étonnant pour des vases qui, au départ, sont des vases tournés et très bien tournés. Alors là aussi, il faudrait faire des enquêtes régressives pour savoir si on a toujours pratiqué comme ça ou si, quelques siècles auparavant, la même forme était faite avec les procédés qu'on a vus pratiquer en Afrique. Mais là, c'est une autre histoire. Bon, la même chose, donc à partir de formes que l'on voit à l'arrière-plan, qui sont faites en terre crue, en torchis, le potier a façonné des galettes en forme d'œuf et il va les reprendre au colombin. Donc là, la girelle du tour, d'ailleurs, est en forme de coquetier, pratiquement, pour pouvoir recevoir ses vases à fond rond. Et il va compléter au colombin. Et c'est une manière commode, évidemment, de faire de grands récipients du type amphore. Plutôt que d'imaginer qu'on va faire ça à partir d'une motte d'argile de 10 kg qu'on va traiter comme un gobelet. Alors pour les grosses pièces, là on a un bon exemple du fait qu'il est beaucoup plus facile évidemment de faire la préforme au colombin plutôt que de vouloir creuser, de faire le cylindre à partir d'une grosse motte d'argile. Et cette forme, ce cylindre va être tourné comme on aurait tourné la motte une fois creusée. Mais là en l'occurrence c'est pour faire de grands vases de stockage qui vont être faits en deux parties. C'est-à-dire que sur la partie basse que l'on voit finie dans l'angle, on va rajouter une forme pré-tournée qui va permettre de finir le vase. Alors dans les ateliers de tournage, ayant des productions importantes et des cadences importantes, on pratique évidemment le tournage à la balle, qui consiste à mettre une grosse quantité d'argile, concentre une seule fois et à débiter dans cette masse plusieurs vases identiques. Ce qui suppose évidemment une grande maîtrise. Vous voyez que la maîtrise est telle que le potier regarde ailleurs pendant que sa motte n'est pas droite, que sa balle n'est pas droite, mais que c'est pas du tout gênant. Alors vous noterez au passage que, j'aurais déjà vous fait remarquer peut-être sur d'autres photos, que le tour n'est pas disposé dans l'axe du potier, mais est décalé sur le côté. Ce qui est indispensable si évidemment on veut faire des grosses pièces. Vous ne pouvez pas façonner une grosse pièce devant vous. Vous pouvez plonger le bras si elle est à côté. Donc là aussi c'est un indice, rien à voir avec justement les tours qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui en France, qui sont avec la girelle dans l'axe du potier. Alors les cadences sont évidemment importantes. Les fabricants de bols peuvent tourner 250 bols le matin et tournasser l'après-midi les 250 bols qu'ils ont fait la veille. Voilà. Mais y compris dans des ateliers français contemporains, notamment à Roussillon, d'après ce que disait l'ancien potier qui avait commencé à travailler jeune avant-guerre, le tourneur devait tourner au moins 250 kg d'argile par jour. C'était ça la cadence normale pour gagner sa vie et pour faire la production. Alors après la période d'un pré-séchage, la céramique peut recevoir un décor. Bon, elle peut être polie, engobée et polie, recevoir des décors, qu'il s'agisse de goudron ou d'oxyde, on va voir quelques exemples. Voilà, donc on a des grands plats engobés avec évidemment une argile riche en fer et qui sont polis au galet. Et à côté, des décors avec oxyde de fer et de manganèse sur des cruches, simplement l'oxyde délayé à l'eau qui est passé avec un pinceau de chèvre, et ici aussi des oxydes de fer qui vont être utilisés pour décorer les canaries. Ici, c'est simplement un décor de lait chaud qui va être utilisé pour décorer ces réchauds, qui vont être un peu des réchauds de fête, ça, je pense que c'est des choses qu'on offre pour les mariages. Et dans certains ateliers, ce sont des décors végétaux, soit de goudron. Bon, aujourd'hui, dans l'exemple qu'on a là, c'est carrément du goudron de revêtement de route qui est utilisé. Mais pour fixer ce goudron, on va décorer le vase au sortir du feu, avant qu'il soit complètement froid. Et ça suffit à fixer le goudron. Dans le cas des jus végétaux qui ont été utilisés pour les pièces qu'on voit à gauche, on est généralement obligé de refaire une cuisson très légère pour fixer le... Évidemment, si on se contente de peindre avec un jus végétal et sans faire rien d'autre, eh bien, à l'usage, simplement à l'eau, évidemment, ça va se dissoudre. Donc, il faut recuire le vase, mais simplement de manière à fixer ces décors. Alors, on ne peut pas les faire, évidemment, avant cuisson, puisque comme c'est des décors organiques, ils brûleraient complètement. Donc, c'est souvent simplement autour de 100 degrés qu'on refait une petite chauffe qui va consister à fixer ce décor. Et c'est la même technique qui a été employée pour les vases peints gaulois, c'est-à-dire que la première cuisson, vous avez l'engobe de fond, qui lui est cuit évidemment lors de la première cuisson, et c'est ensuite qu'on fait les décors très fins, bruns ou noirs, qui resteront fragiles. C'est pour ça que souvent ils ont disparu lorsque les conditions de conservation dans le sol ne sont pas optimales, mais qui est fixé donc par une légère recuisson. Alors le mode de façonnage peut lui-même entraîner un décor. Et là je vous ai mis quelques exemples en haut de vases d'Ogon, puisque le vase est fini sur une natte de baobab qui doit faire 40 fils de chaîne et 40 fils de trame, puisque chez les D'Ogon tout est extrêmement symbolisé. On appelle ça d'ailleurs que c'est la couverture du pot. De même que le pot cru symbolise la lune et le pot cuit va symboliser le soleil, que le pot cru symbolise aussi la matrice, enfin, ça, c'est extrêmement riche de symboles chez les D'Ogon. Donc là, ça fait des siècles qu'on fait les pots comme ça et qu'on continuera à les faire. La fabrication des pots chez les D'Ogon, qui est encore une autre technique, qui va consister dans une motte de terre qui elle est relativement ferme, à taper au centre avec un galet jusqu'à lui donner une forme sphérique. Ce qui aussi demande une certaine maîtrise et que la qualité de la terre soit suffisante pour que ça ne se fissure pas, mais suffisamment molle pour que ça se déforme. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Quant aux exemples que l'on voit en bas, ce sont des céramiques réalisées au battoir selon la technique que je vous ai montrée au Cambodge, mais cette fois-ci en utilisant des battoirs avec des rainures qui constituent des décors. Chose qui se faisait encore traditionnellement quelques générations en arrière et qui aujourd'hui a complètement disparu. Les battoirs sont lisses et on n'a plus ces décors assez extraordinaires que l'on pouvait voir. Alors, l'étape ultime qui va donner évidemment à la céramique sa résistance, c'est la cuisson. On voit donc là une des plaques du sanctuaire de Pentescoufias, c'est les offrandes des potiers qui nous montrent un four grec utilisé pour les figures noires, qui là sont des fours à voûte permanente, puisqu'on voit une porte du laboratoire. Mais on va voir qu'il y a beaucoup d'autres techniques, évidemment, et que ce type de four est loin d'être le plus courant dans le domaine méditerranéen et au-delà. Il arrive en effet que les vases soient cuits à la pièce. Là aussi, c'est pour des vases qu'on ne souhaite pas cuire à de très très hautes températures. On m'avait dit que c'est une technique qui était aussi pratiquée à Madagascar, dans certains ateliers. Donc des cuissons qui sont très rapides, pour des céramiques qui, à la sortie, pourtant, ont l'air très bien cuites, mais là aussi, c'est dû à la nature de l'argile. Là, je montrais justement le fait que le vase est retiré encore chaud et qu'avant qu'il soit totalement froid, on va justement faire le décor au goudron que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, les cuissons en meule, qui sont souvent utilisées enfin, pour des céramiques culinaires, mais que l'on veut volontairement ne pas trop cuire. Ce qui fait que vous voyez qu'on commence à retirer les vases du feu, sans attendre d'ailleurs que la combustion soit terminée, que la meule ait fini de brûler. Là, c'est des céramiques avec un dégraissant micassé très important qui leur donne cet aspect caractéristique. Et pour certains d'entre vous qui ont voyagé en Turquie, vous aurez dû forcément croiser ce type de céramique culinaire de Gökeyup qui alimente beaucoup de restaurants turcs. Alors, des cuissons meules, cette fois-ci pratiquées au Cambodge, plus étonnantes parce que on ne recouvre pas complètement les pots. On commence à mettre le feu sur une partie, ce qui en termes de choc thermique est encore plus fort qu'ailleurs. Mais c'est vrai que ces potiers utilisent des argiles qui ont une grande proportion d'argile cognitique dans le mélange, ce qui aide. Avec la terre à faïence, là, ça se passerait très très mal, là, je pense, ce type de cuisson. Donc là aussi, la cuisson dure très peu de temps, hein, c'est l'ordre d'une heure. On pourrait cuire évidemment à beaucoup plus haute température, mais on veut surtout éviter ça, puisqu'à ce moment-là, les vases perdraient toute résistance au choc thermique. On revient au Mali avec des villages qui pratiquent des cuissons en meule. Là, c'est par regroupement, c'est-à-dire qu'il y a une zone dans le village où ont lieu les cuissons. À Kalabougou, c'est au centre du village, avec une meule vraiment énorme, alors qu'à Farako, où les cuissons d'ailleurs ont lieu le soir, la nuit, on a des meules qui correspondent à des regroupements familiaux. Et là, ce que vous avez là, c'est une petite partie de la production de la semaine, puisque le rythme est hebdomadaire. On commence la production lundi, et le dimanche, on ira vendre au village voisin, en l'occurrence à Ségou. Et donc là, on va cuire le samedi. Et vous voyez que ça peut être de la céramique modelée, ça n'empêche pas une production de masse. Sachant que là, c'est qu'une petite partie de ce qui a été produit à l'échelle du village. Donc là, les meules sont complètement recouverts de branchages, puis d'écorce de sorgho, voire de riz. Donc la cuisson est toujours confiée à une potière affirmée, souvent la plus vieille. Il y a qu'elle qui a le droit de mettre le feu. Et on laisse consumer quelques heures la meule avant de commencer à extraire des vases, là aussi. Les vases de la périphérie sont extraits encore rouges pour être trempés dans des canaries avec qui contiennent des jus végétaux et des écorces, ce qui va créer un vernis naturel. Et si on veut des peaux noires, on laisse le pot longtemps dans le mélange. Du coup, ça va évidemment brûler obtenir un vernis noir entre guillemets, alors que si on le retire vite, on va avoir un vernis transparent ou brun, légèrement brun. Et le lendemain matin, dans les grands canaris qui ont servi à faire ce trempage, on a quelque chose qui ressemble à de la confiture au fond. Voilà, le lendemain matin, au centre de la meule subsistaient les plus gros vases qu'on laisse longtemps, puisqu'évidemment est un peu plus long à cuire. Et tous les vases qui sont à la périphérie, voilà, ont ces couleurs en fonction du trempage qui a été fait dans ce mélange. Et voilà les vases encore rouges au moment où ils sont sortis pour être trempés dans les décoctions d'écorce et de végétaux. Alors d'autres types de meules qui là vont se consumer toute la nuit généralement. Donc c'est le village où l'on voyait les femmes et les hommes utiliser le tour à main, mais de façon différente. Un village qui fait des céramiques culinaires. Et là, vous avez des meules très très bien construites, bon, sur un lit de bouse. On dispose des vases, des tessons, et par-dessus, de nouveau, du combustible, du fumier. Et il n'y a pas d'éléments entre les vases eux-mêmes. Il n'y a pas de combustible entre les vases eux-mêmes. Et ça suffit pour que les vases aient l'air très bien cuits lorsqu'on va les ramasser le lendemain midi. avec de bonnes propriétés culinaires. Alors les meules peuvent être aménagées, elles peuvent être au niveau du sol, mais on peut les aménager. Après ça, il y a des aménagements qui peuvent même consister à de véritables murets. Mais chez les Nogons, les meules sont vraiment dans des cercles très bien construits et assez profonds. C'est pour éviter justement des coups de vent qui feraient que les vases ne soient trop cuits. S'ils les faisaient en air ouverte, il y aurait le risque que les cuissons s'emballent. Et là aussi, le combustible est simplement de la bouse de vache et du crottin, disposé sous les pots et par-dessus les pots. Et ça s'enflamme comme de l'amadou quand on amène quelques brindilles enflammées. Et on laisse consumer là jusqu'à ce que ce soit fini. On ne retire pas les vases avant la fin. Alors autre type assez inattendu, qui est la cuisson dans des fours à pain, qui est pratiquée dans le nord du Maroc. Un atelier qui a une production énorme, qui inonde tout le Maroc, et dont on peut trouver aussi des spécimens en France d'ailleurs, parce que c'est une très bonne céramique. Et que surtout il y a eu des commerçants qui ont vu le filon et qui se sont mis à venir acheter ça par plein camion, parce qu'autrement, c'est pas les potiers qui auraient décidé évidemment de venir commercialiser en France leur céramique. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à des cuissons parce que elles ont lieu là aussi la nuit, mais c'est un mode de cuisson qui est aussi pratiqué loin de là, en Colombie. Les céramiques noires et rouges de la chamba sont cuits également dans des fours à pain. Là aussi, il serait très intéressant de savoir à quelle époque remonte cette technique. Est-ce que c'est le résultat d'influence espagnole? Même chose pour la chamba, puisque là on est justement dans le Maroc dit Maroc espagnol, donc savoir à quel moment on s'est mis à cuire les céramiques avec ce procédé qui ne tombe pas forcément sous le sens. Dans ces fours, en Colombie, on fait des céramiques extrêmement polies, rouges ou noires. Simplement pour faire les céramiques noires, on les met dans des vases beaucoup plus grands, en mettant du fumier avec les céramiques, avec les pièces qu'on veut cuire dans ces pots, puis en les fermant. Alors aujourd'hui, ils utilisent des bidons, c'est moins joli, enfin ça marche aussi, au lieu d'utiliser évidemment des jarres en terre cuite. J'ai découvert avec stupéfaction qu'aujourd'hui, les ateliers de la chamba fabriquent, devinez quoi, des tagines pour les Européens. Puisque le tagine est à la mode, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ça la mondialisation. Donc en Colombie, on fabrique des tagines que vous pourrez trouver aux Galeries Lafayette, je pense, ou ailleurs. Alors une structure, cette fois-ci construite pour la cuisson, le four, évidemment une structure que tout le monde connaît, avec des fours relativement primitifs, avec la sole constituée simplement de boudins rayonnants sur un pilier central, qui sont des fours relativement bas. Mais il faut savoir qu'on va les charger au-delà des bords du laboratoire. Et là aussi, c'est quand même des meules un peu améliorées, c'est-à-dire que c'est pour des cuissons qui, généralement, n'excèdent pas 2 heures. Mais ça permet quand même, si on veut, on peut faire un petit feu, on peut évidemment bien mieux contrôler la montée en température que dans une meule. Vous voyez que l'enfournement est assez sportif, puisqu'il se fait évidemment par le sommet. Il faut éviter de marcher sur les pots. Alors, une fois le chargement fini, tout ça va être couvert de tessons. Et généralement, en fin de cuisson, on met du combustible directement sur le sommet du four. Puisque, évidemment, dans ces fours-là, il y a toujours un différentiel thermique assez fort entre la base et le sommet. Et pour être assuré que les pots qui sont au sommet vont être cuits, on met aussi du combustible, on les réchauffe par le haut. Alors, les fours, le type de four le plus commun, c'est donc le four cylindre, enfin cylindre ou rectangulaire, mais enfin c'est surtout des cylindriques, c'est-à-dire des fours à tirage vertical mais sans voûte, que l'on va simplement couvrir de tessons, et vous voyez qu'il y en a qui peuvent être énormes, de plusieurs mètres de haut, qui vont cuire des vases de très grande taille, et éventuellement, vous voyez, l'échelle du... On descend avec une corde à l'intérieur du four, du laboratoire. Là, on voit que les pots sont très bien calés. Il faut bien caler les pots, puisqu'on va avoir un chargement qui peut excéder une tonne. Et il ne faut pas, évidemment, qu'il y ait un porte-à-faux et que les vases qui sont à la base ne s'effondrent. Oui, ces fours peuvent être extrêmement bien remplis, au point qu'on se demande d'ailleurs comment se fait le tirage. C'est impressionnant de voir une telle quantité de peau aussi serrée dans ces grands fours qui vont être donc recouverts de tessons, puis en partie de terre sur le pourtour. Alors un petit mot sur le combustible. Il est bien évident qu'on utilise tout ce qui peut brûler, et de préférence ce qui ne coûte pas cher. Donc pour tout ce qui est cuisson en meule, il est évident que tout ce qui est fumier, mousse de vache et le reste est très pratique. C'est du recyclage intégral. Mais on va aussi utiliser d'autres combustibles, ici du fumier. Ce qui oblige évidemment à charger le four en permanence. Hein. On ne peut pas dire je mets trois grosses bûches et je vais faire un tour. Dans le cas de l'atelier d'Avanos en bas, c'est carrément de la balle de blé qui est utilisée. Et là aussi, c'est le combustible parfait parce que ça brûle très très vite en laissant peu de cendres. Là, on n'a pas besoin de problème de débraisage, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de braise. Du genêt à sa fille. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de genêt. La lavande d'un demnate. Là aussi, il n'y a sûrement plus de lavande depuis longtemps. Et des buissons, évidemment, de toutes sortes, mais qu'il faut malheureusement aller chercher de plus en plus loin. D'où la nécessité régulièrement de trouver de nouveaux combustibles. Et on a utilisé un temps à Fès le tourteau d'olive pour les faïences. Ça brûle très très bien, évidemment, ça reste huileux quand même. Mais là aussi, il faut charger en permanence. Il y a des retours de flammes terribles. Et bon, au passage, évidemment, tout le monde vous assure que le travail d'enfant n'existe plus dans ces pays-là, mais ils viennent juste aider papa quand l'école est finie, c'est bien connu. Et à une certaine époque, les ateliers sont passés aux pneus. Voilà. Autre forme de recyclage, mais qui cette fois-ci crée des monceaux de ferraille, évidemment, parce qu'il reste les armatures métalliques des pneus. Et l'inconvénient du pneu, c'est évidemment que c'est plus difficile à maîtriser. Quand on a acheté deux pneus de camion, si on a un de trop, ben c'est le four qui fond. Et j'ai pu voir comme ça des magnifiques sculptures en vase fondu lorsque les fours sont passés aux pneus. Et il a fallu par la suite modifier un peu la structure des fours pour pouvoir utiliser ce nouveau combustible. Mais aujourd'hui, pour des raisons évidemment de salubrité, on a encouragé dans beaucoup d'endroits les potiers à passer au gaz, ce qui économiquement n'est pas rentable pour eux, et qu'un bon moyen de finir de tuer cet artisanat. Le problème qui se pose dans la plupart de ces pays, c'est que les organismes qui sont censés aider l'artisanat sont souvent le fait de technocrates qui connaissent strictement rien, qui ne prennent que des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt des potiers. Or justement, alors, on va aider les potiers. J'ai vu aider les potiers du Sud en leur offrant des tours à pied en ferraille hors sol, que j'ai vu poser après sur les tas de combustible, parce que ça leur sert à rien. Ce dont ils ont besoin, c'est des débouchés, et qu'on ne les chasse pas de l'endroit où il y a des touristes, comme c'était le cas à Ouarzazate, venant trois fois sur ce site. La première fois, les fours étaient devant le camping, mais évidemment, ça envoyait des fumées sur le camping. Donc on les a envoyés un kilomètre plus loin, donc plus personne, il n'y a plus de visibilité pour les touristes. Et comme ça ne suffisait pas, la troisième fois où je suis venu, il ne restait qu'un seul potier, parce que cette fois-ci, on les avait déplacés sur la décharge municipale. Voilà, donc il restait qu'un potier, c'est celui qui ne pouvait pas aller travailler ailleurs parce qu'il était, hélas, trop mauvais pour louer ses services dans d'autres centres comme sa fille ou ailleurs. Voilà. Et j'ai trouvé cette photo magnifique pour vanter et pour faire de la publicité pour les potiers d'El Jadida. Il y a quelqu'un qui a trouvé que c'était très joli, ce potier népalais, pour illustrer l'artisanat céramique à El Jadida. Sans commentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. quelques questions peut-être.
On ne peut que remercier infiniment donc Armand Desbats de nous avoir fait comme ça voyager à travers les continents, entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais aussi à travers les siècles, et surtout en mêlant ses facultés d'observation et d'analyse d'archéologue à celle d'un véritable ethnologue. Donc, on est étonné par les conditions techniques déployées, par les solutions retenues par les potiers, des conditions de travail très contraignantes aussi de ceux-ci, le travail des femmes et des enfants, voilà. Donc, on peut aussi énormément apprécier aussi la qualité de tes images, hein, pour la plupart argentiques, hein, et donc, qui est le fruit quand même de plusieurs décennies de missions un peu partout dans le monde. Hein. Et c'est bon, ce qui est un peu frustrant pour les archéologues, bon, c'est de voir que parfois bon, il reste finalement très peu de vestiges de ces lieux de travail, et, bon, et en plus que beaucoup d'entre eux donc, ont disparu. Bon, mais là, je ne vais pas rester plus longtemps pour féliciter Armand. Je suis sûr que parmi les archéologues présents et les potiers, donc, ils ont plein de questions pour lancer le débat. Alors, qui veut prendre la parole en premier? Monsieur Martin?
Ah!
Ah, il s'est endormi!
Non, après ce week-end, oui.
Après avoir cuit.
Après avoir fait une cuisson en meule pour ce week-end.
Oui, bon, ben, on a fait une première expérience de cuisson en meule, donc, dans la cour du musée ce week-end. Bon, avec 60% de casse, mais bon, je me doutais qu'il y allait y avoir peut-être des problèmes, hein, par rapport à l'usage de la terre. Bon, on en a parlé un petit peu dimanche, effectivement, il aurait fallu certainement plus chamouter la terre. Bon, j'ai pris aussi des pièces tournées, faute de temps, enfin, j'ai tourné et j'ai pas fait du modage. Par contre, une question, c'est que pendant notre cuisson, nous, on a mis pas mal de combustible, on est monté à 900 degrés. Et là, plusieurs fois, vous avez dit, pour pas que ça soit trop cuit. Alors, quelle est la signification de pourquoi trop cuit?
Bah, parce que la terre est plus fermée, plus elle est cuite, plus elle est fermée. Et du coup, moins elle résistera au choc thermique. Elle résistera mieux au choc mécanique, certes, mais les tensions à la différence de température qu'il y aura entre l'intérieur et l'extérieur lorsqu'on va mettre sur le feu fait que la céramique ne va pas résister, va éclater.
D'accord, c'est par rapport à l'usage postérieur.
Tout à fait, tout à fait. Donc souvent, quand on a fait des mesures sur un certain nombre de céramiques, c'est cuit entre 700 et 800. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas cuire plus haut. Il faut complètement sortir de l'idée qu'une céramique grossière peut cuite. C'est parce que le potier ne maîtrise pas la céramique. Au contraire, il la maîtrise très bien. Parce qu'il sait l'usage qu'il veut en faire. Et il adapte son produit et son argile. Alors, d'un point de vue de la question archéologique, justement, je me la suis posée en allant sur ces ateliers où on fait encore des cuissons en meule. Et le problème, c'est qu'il ne reste vraiment pas grand-chose. Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de casse. Il n'y a pas des dépotoirs de ratés de cuisson, comme dans les ateliers de faïenciers de Fès ou d'ailleurs. Et qu'est-ce qui reste? Là, c'est carrément des cuissons en meule sur air ouverte. Il n'y a rien. Donc il reste un rond noirci, là où il y a eu la cuisson. Et il faut tomber dessus en fouille. Hein. Et puis encore, qu'est-ce qui va subsister lorsque ce sera resté quand même longtemps à l'air avant d'être enfoui cet espace. Et on a ce problème au Cambodge, puisque je travaille sur les céramiques mères, que les grès sont faits dans des fours, pas de problème, donc on connaît très très bien les lieux de production. Toutes les terres cuites, c'est des cuissons en meule comme on fait encore aujourd'hui, et là on ne connaît aucun centre de production. On ne les identifie pas, on ne sait pas où ils sont.
D'autres questions à Sylviane?
J'ai une question, c'est par rapport à l'usage de pneus pour faire du feu. parce que ces poteries, la majorité, elles vont avoir un usage domestique. Et quand on brûle des pneus, on imagine que c'est toxique. Donc après, derrière, ça ne génère pas de la toxicité pour...
Alors non, parce que c'est ça qui est surprenant, c'est qu'à partir d'une certaine température, on ne brûle que du carbone. Voilà. Alors quand on va allumer les pneus, ça va sentir très très mauvais, mais quand on sera au niveau du grand feu, qu'on brûle du pneu ou de la lavande, ça va sentir à peu près la même chose. Et de toute façon, la céramique se décarbure au refroidissement, et donc le produit sera aussi sain qu'on ait brûlé des pneus. Alors si on arrête la combustion au milieu et que les pneus fondent sur la céramique, si on fait des cuissons aux meules, aux pneus et qu'elles ne sont pas poussées à bout, bon là, en effet, là, je pense que ce sera autre chose. Mais dans les fours, ça n'intervient pas.
Une question d'un étudiant belge, Mathieu Delmeul.
Vous avez une dimension anthropologique, et est-ce que vous pourriez nous parler un peu des limites de la dimension archéologique par rapport à l'archéologie, donc les limites de l'archéoanthropologie?
Très bien. J'aurais pu faire l'exposé là-dessus, puisque ma dernière conférence était sur ce thème-là. Mais les limites sont nombreuses, parce que l'analogie n'est pas suffisante. Le résultat, il y a plusieurs procédés pour obtenir le même résultat, et c'est pas parce que justement en expérimentation on obtient tel résultat qu'on peut dire ah ben sûrement qu'on a fait comme ça. Bon. On a vu toutes les manières, par exemple, de faire des pots à curon. Si moi demain je fais un pot à curon et que j'y arrive, c'est pas pour autant que j'aurai retrouvé la technique qui a été utilisée dans tel ou tel atelier. Alors l'autre limite, c'est celle de l'enquête orale. Et c'est aussi le fait que des choses qu'aujourd'hui on va juger traditionnelles, de fait ne le sont pas, ont changé avec le temps, et qu'il y a déjà eu des acculturations, y compris influencées par les techniques modernes. Bon, ben, les potiers de Fès, c'est à la fois très technique, mais tous les émaux qu'ils utilisent depuis le début du XXe siècle, ils sont fabriqués en Europe, c'est plus eux qui fabriquent leurs émaux, par exemple. Et puis il y a tous ces phénomènes d'imitation, le fait que la production se tourne. Alors c'est aussi des phénomènes intéressants, hein, de voir que la production est modifiée par l'intervention des intermédiaires qui, eux, connaissent le client et qui, soit connaissent les vrais désirs du client, soit projettent les désirs du client. Bon, voilà. On imagine que l'Européen qui va là-bas, il aura envie d'acheter des cochonneries qui ressemblent, et non pas un très beau pot rond qui servait à aller chercher l'eau. Alors que c'est pas forcément vrai qu'il préfère acheter un cendrier décoré que la céramique traditionnelle. La difficulté, c'est que on n'est pas forcément... Je suis pas ethnologue, justement, donc je n'ai pas appris l'arabe et dialectal. Donc on utilise forcément des interprètes qui ne connaissent pas forcément la céramique, qui donc peuvent se méprendre à la fois sur la réponse du potier et sur la question qu'on a posée nous. Voilà. Donc tout ça, ça intervient. Moi, il m'est arrivé de dire faut reposer la question parce que la réponse là qu'il a donnée, c'est pas possible. Bon. Mais si je connaissais pas suffisamment l'art de la céramique, j'aurais gobé ce qu'il avait répondu. Parce que aussi, le potier, quelquefois, suppose qu'on attend telle réponse. Voilà. C'est le risque pour faire plaisir. Ah, et je vais lui dire ça, parce que je pense que c'est ça qui... S'il m'a posé cette question, c'est qu'il aimerait que je dise ça. Alors que c'est pas vrai, bon, forcément. Alors tout ça, ça intervient. Bon, partie des limites de l'enquête, mais c'est surtout que il faut justement avoir beaucoup d'exemples et pas se limiter à quelques exemples avant de vouloir faire des modèles pour interpréter. Ça aide à la réflexion, ça donne pas de solution. Voilà. Mais ça oblige à réfléchir quand on voit comment le travail est sectorisé, comment fonctionne un certain nombre d'ateliers. On s'aperçoit que la vision qu'on a eue au début de l'archéologie du potier qui est l'artiste, qui crée, etc., elle est complètement fausse. Bon, hein, les Benvenuto Cellini de la Sigillée, ça n'a jamais existé. Mais ça permet de voir justement qu'un tourneur, vu la quantité, bon ça c'est une chose que j'avais dit à Le Zoo en 89, donc c'est pas tout neuf, hein, que quand on voit ce que doit être la production d'un tourneur qui fait des vases en sigillé décorés, ben, à moins d'être un feignant et d'être payé justement comme un artiste, s'il doit tourner ses 150 drag 37 dans la journée, ça veut dire qu'il a 150 moules. Et que le lendemain, ils ne seront encore pas prêts à être démoulés, donc il aura besoin de nouveau de 150 moules. Et ça, c'est vrai pour un tourneur. Et à ce moment-là, on imagine que la quantité de moules est telle ben, qu'il y a des gens qui font que fabriquer les moules. Et ce n'est pas chaque potier qui va, à part l'atelier minuscule, perdu dans l'Écosse, tout seul, une fois que la grosse anque a fini. Ça, c'est des cas limites. Mais par rapport, lorsque il y a cette grosse production organisée, eh bien, on a des chaînes de production qui ne sont pas celles du potier actuel, c'est bien évident.
Pour le zoo, on avait testé avec le potier Artus dans les années 90, dans le tournage, et pour voir combien de temps il fallait pour libérer le moule. Et en fait, en été, c'était une vingtaine d'heures. Mais bon, ce qui est déjà énorme, ça veut dire qu'il faut quand même plusieurs centaines de moules pour le tourneur.
Et quand vous avez... Si vous avez plusieurs centaines de tourneurs, oui, la quantité de boules que ça fait.
Alors sinon, c'était vers quelle année tu as commencé cette vaste enquête de par le monde?
Quand j'ai commencé?
Oui. Et par quel pays tu...
Oh ben, c'était le Maroc avec Maurice Picon et une étudiante marocaine qui a fait une thèse là-dessus. Et moi, j'étais la petite main, je faisais les photos et je prenais des notes et je... Mais moi, j'avais la vision archéologique plus qu'elle. Bon, elle faisait le... Donc c'est là que j'ai accumulé cette grosse documentation. Mais entre 85 et 93, j'ai fait plusieurs fois le tour complet du Maroc, et le tour des ateliers. Mais justement, je les ai vus évoluer et pratiquement disparaître. Voilà, c'est l'artisanat qui est moribond, hein, comme il a été moribond chez nous à une époque. Et il subsiste du coup les grands centres qui se mettent. Donc il restera Fès toujours, il restera sa fille, il restera Salé, voilà, des grands centres comme ça, avec des courants commerciaux et une vente qui est même mondiale, enfin ils vendent à l'étranger, etc. Mais ces ateliers de céramique culinaire des montagnes, ben, le plastique et le fer blanc les a tués pour la plupart.
Ce qu'on est très étonné, c'est aussi par rapport donc, à ces positions et postures de travail qui sont quand même pas faciles à tenir tout le...
Oui, mais ça, c'est des positions qu'on a pour beaucoup, beaucoup de métiers dans toute la Méditerranée. Hein. Un tourneur sur rose ou sur bois, c'est accroupi en utilisant aussi les doigts de pied pour caler le... C'est pas sur un établi. Hein. Donc, quand là aussi, en archéologie expérimentale, j'ai vu des gens... demander combien de temps eux ils mettaient à faire un bouton de culotte pour essayer de comprendre comment dans l'Antiquité et combien de temps on mettait, valait mieux aller voir en effet dans les souks un tourneur aujourd'hui que de se fier à leur expérience. Sauf que c'est pas les mêmes méthodes.
Est-ce que l'argile est une ressource renouvelable ou est-ce qu'elle risque d'être rare?
Alors on peut se poser la question pour des argiles spécifiques. Pour les céramiques qu'on voit là, non, il n'y a aucun souci. Si on veut faire de la porcelaine, là, on ne va pas trouver l'argile de partout. Et je me suis vraiment posé la question pour des grès au Cambodge, des grès d'époque ancorienne, hein, 12e, 13e siècle, parce qu'on utilise des kaolinites très blanches pour faire des glaçures vertes. Et on voit des ateliers qui disparaissent et qui se mettent à faire Sur la fin, j'ai l'impression qu'ils font de la céramique en utilisant des argiles riches en fer, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus faire ce... Ils font des engobes bruns, enfin des vernis bruns, etc., des glaçures, pardon, brunes, et les ateliers se déplacent, et je pense que là, il y a peut-être un problème de source, de matière première. Que l'argile blanche très pure, le kaolin, qu'ils voulaient utiliser pour faire ces grès, qu'ils veulent copier d'ailleurs les grès chinois, hein, ils ont peut-être épuisé la source, et c'est pour ça que les ateliers s'arrêtent. Et ils se développent 300 km plus loin, où de nouveau ils font des pâtes blanches, des glaçures vertes sur pâtes blanches. Et puis là aussi il y a la même évolution, au bout d'un certain temps, ils prennent les grès ferrugineux qui servaient jusque-là à faire des choses non glacurées, et ils se mettent à faire aussi des grès glacurés avec ces mêmes argiles, et ils se mettent à faire des glaçures brunes ou noires. Et on voit pratiquement disparaître les glaçures vertes turquoises. Qui veulent imiter des célabons, mais qui en sont loin.
D'autres questions parmi les céramologues, Céline Barthélemy, une petite question.
Je voulais savoir, en fait, j'aurais voulu savoir si là on voit des productions qui sont attachées en fait à un village.
Oui.
C'est pas des productions familiales, en fait.
Les deux, parce que tout le village fait les mêmes formes. C'est familial, mais en même temps, c'est la marque de fabrique du village. Je pense que d'un village à l'autre, on voit des différences qui peuvent être petites, avec un répertoire de formes très voisin, mais il y a à chaque fois la petite touche qui doit permettre de reconnaître... Et si nous, on ne le voit pas du premier coup d'œil, je pense qu'un Africain, il ne se trompe pas, il reconnaît tout de suite la céramique d'un village par rapport à l'autre. Il y a une homogénéité dans la production. C'est pour ça que j'avais été énormément surpris par une étude qui avait été faite par un archéologue dans l'Est, sur un village... est-ce que c'était à l'époque de l'Athènes, je ne suis pas sûr, ou plus ancien, où pratiquement il croyait démontrer que chaque maison, il ne faisait pas les pots de la même manière. Et ça, j'ai beaucoup de mal à le croire. Parce que s'il y a des cultures qu'on les identifie, c'est parce que justement, dès qu'il y a une tradition, tout le céramique traditionnel, par définition, tout le village traite de la même manière. Que chaque maison a sa manière à lui. Alors on peut voir des différences à cause des mariages. Ça a bien été étudié dans la Coupe du Niger par les ethnologues, où on voit que la femme se déplace, elle vient avec son répertoire, par exemple, décoratif. Mais ce n'est pas chaque maison où on fait de la poterie différemment. Ça, on va avoir du mal à trouver des exemples ethnographiques. Et donc je pense que c'est plutôt en cherchant trop la petite bête sur des soi-disant traces de façonnage qu'on est arrivé à cette théorie qui, moi, me semble pour le moins surprenante.
Là, on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui façonnaient des vases, et que font les époux?
Alors, ça dépend des villages, mais en Afrique, généralement, les époux sont forgerons. Ouais. Et on dit d'ailleurs que la poterie a été inventée comme ça. Pour eux, la forge a précédé la poterie, et c'est... la forge qui a montré que l'argile cuisait et qu'on a découvert la terre cuite. Alors au Maroc, c'est pas le cas, parce que là, c'est des villages ruraux. Une grande partie de l'activité, c'est aussi tout simplement les activités agricoles, hein, et la poterie, forcément, est saisonnière, en partie saisonnière. Bon, l'hiver, quand les ateliers ne fonctionnent pas. Hein. Et puis quand c'est la période des moissons, une grande partie du village, c'est quand même ça qui prime. Il faut que tout le monde s'y colle. Bon, après, ça dépend de l'organisation et de la culture du village.
Oui. Une question concernant les cuviers, donc, qui étaient fabriqués jusqu'au début du siècle, pendant la Première Guerre mondiale. J'ai entendu dire qu'à l'époque, ils étaient quand même... cuit aussi en meule, est-ce vrai ou pas? Avez-vous des preuves de ça?
Là, je n'ai pas étudié la question, je ne peux pas répondre, mais pourquoi pas? Mais là, bon, faudrait...
J'ai l'impression qu'on connaît assez peu, en fin de compte, notre passé récent en céramique sur la région de Lyon. Enfin, tout ce qui est ici, par les temps, c'est une impression que j'ai de 30 ans que je suis à Lyon.
Ben, je pense que c'est pas une impression. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît le mieux, c'est la céramique romaine. Hein. Ça sent... S'il y avait autant de gens qui travaillaient sur les autres catégories de céramique, et même pour des céramiques prestigieuses, voyons autant que je travaille sur les faïences marocaines, justement, il n'y a pas un bon ouvrage qui te raconte. La plupart racontent des âneries sur un aspect ou un autre. Parce que c'est toujours une vision d'historien de l'art où on regarde que les décors, on ne regarde même pas la forme des vases. Et de la manière dont ils ont évolué dans le temps, etc. Donc les décors, ça se copie. Et aujourd'hui, la grande spécialité de ces ateliers, c'est de faire des copies de pièces anciennes qu'on va après retrouver chez des antiquaires vendues comme 10 pièces 18e alors qu'elles datent des années 90.
C'est notre résidence, c'est notre pensionnaire de la résidence d'artiste de Lyon, c'est bien ça.
Bonjour. C'est une question qui n'a peut-être pas intéressé beaucoup les archéologues, c'est un peu égoïste, c'est très technique. Je suis juste très intéressée par cette histoire de décoction de racines et de végétaux. J'ai pas très bien compris si ça servait, si ça venait fermer la terre en surface, si ça venait juste, j'ai compris que ça apportait un lustre. C'est ça?
Oui, ça crée un vernis végétal. Alors, ça forcément renforce un peu l'étanchéité du vase, mais j'ai l'impression que c'est... Là, il faudra en discuter, justement, interviewer les potières. Et encore faut-il que l'usage primitif ait été conservé. Parce que le phénomène qu'on a constaté à certains nombre d'endroits, c'est que... C'est pas pour rien qu'on dit traditionnel, hein. On apprend et on fait ce que faisait le père, qui lui-même faisait ce que faisait son père, donc le grand-père et le grand-père, etc. Et après, il y a des gestes dont les gens ne savent même plus pourquoi on fait ce geste. Et quand on leur demande, ben, ils ne savent pas. Ben, on le fait parce que c'est comme ça, on a appris qu'il fallait faire comme ça. Mais la raison, la vraie raison, eh ben, ils l'ont perdue. Alors, quelquefois, elle peut être technique, elle peut être décorative. Bon, il y a par exemple des vases, que ce soit d'ailleurs au Maroc ou en Turquie, où il y a des dessins en relief au fond. C'est-à-dire qu'on utilise un moule, on pourrait dire un moule, oui, quand on façonne le vase, qui va du coup faire qu'il y a des motifs en relief. Un peu comme les vases à fond marqué médiévaux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des choses qu'on a au 9e siècle. Bon. Avec des symboles qui parfois ressemblent même d'ailleurs à ce qu'on voit sur les vases médiévaux. Mais quand on leur demande le sens de ces marques, c'est pas une signature, c'est pas, ils savent plus, c'est parce que ben c'est comme ça leur poterie, on fait ça. Quoi. Alors ça aussi, c'est pour l'aspect ethno-archéologique, ça aide pas. Quand les gens font des choses qu'ils ne savent pas pourquoi, nous on aimerait bien savoir quel est le fondement du geste.
Sans chercher le pourquoi du comment, j'imagine que vous assistez du coup à toutes ces étapes de fabrication, à ces cuissons. Et est-ce que vous faites, là du coup c'est une forme de travail de collectage, est-ce que vous faites du collectage maniaque dans le sens le relevé par exemple de toutes les étapes de fabrication?
Non.
Non.
Parce que... Alors, si on fait des photos, voilà, beaucoup de prises par photo et par film, parce que j'ai fait des films, j'ai des heures de films, mais on n'est pas toujours resté suffisamment longtemps, parce que quand on a fait ces enquêtes au Maroc, justement, c'était d'avoir une vision très très large. Plutôt que de polariser sur un seul atelier, c'était de voir le maximum d'ateliers dans tout le Maroc, pour arriver à avoir des classes, etc., enfin des types de fabrication, des types de... voir les on regardait comment on préparait l'argile, s'il y avait des mélanges, on prélevait les argiles, on a fait des analyses après, et on ramenait à chaque fois des vases. Moi, j'ai des fois passé la frontière avec la 4L remplie de céramique, où le douanier me regardait avec des gros yeux, demandant ce que je faisais avec tout ça. Mais c'est vrai que je regrette que certains ateliers ne pas pu assister à des cuissons. Et très souvent, on ne restait pas assez longtemps, quoi, parce que c'est pas... On ne peut pas s'imposer, dire aux gens, mais je vais venir dormir chez vous et je vais rester 3 jours, là. Alors qu'on débarque comme ça, avec des étrangers. En tout cas, la technique, je vous la conseille, parce qu'il faut trouver les ateliers. Et c'est vrai que pour le Maroc, une bonne solution, enfin, en Afrique aussi, je pense, hein, bah, c'est d'aller au marché. Voilà. Vous allez au marché et vous prenez langue avec les potiers, et puis après vous les suivez quand ils rentrent dans leur village, qui est quelquefois perdu dans la montagne. Vous auriez pu tourner longtemps autour avant de le trouver. Et l'autre chose qui était très très bien, ça je vous conseille aussi, c'est d'avoir un Polaroid. Vous ne savez pas comment ça facilite la vie. Parce que faire des photos, alors, dire aux gens. Je vous enverrai des photos quand je rentrerai en France, je pense qu'on l'aura déjà fait suffisamment de fois. Mais lorsqu'on est un peu ravi dès qu'on leur donne tout de suite des photos et qu'on photographie toute la famille, ben après on peut filmer tout ce qu'on veut et photographier tout ce qu'on veut.
Voilà. C'est drôle parce que vous aviez il y a une photo à moi avec un monsieur, ça doit être au Maroc, justement, il y a une petite photo derrière.
Voilà.
Et j'ai cherché à voir ce qu'il y avait dessus, je crois.
Fait, c'est, pas, ben c'est lui sur la photo, c'est une photo pour la ruine.
Voilà.
Des petites astuces. Mais bon, moi j'étais justement avec cette étudiante marocaine qui faisait les traductions et qui prenait des notes pour sa thèse.
Alors Fabien Pinon, du commissariat à l'énergie atomique.
Merci. Tu disais tout à l'heure que finalement au Maroc il va rester peut-être 2-3 très grandes officines et puis tout le reste est en train de disparaître. Est-ce que c'est vrai aussi par rapport à ce que tu as pu connaître au Cambodge ou en Afrique où là les traditions sont encore suffisamment implantées, vivantes pour que ces métiers, ces traditions perdurent?
Je pense qu'en Afrique, c'est moins menacé que ça ne l'est au Maroc. Quant au Cambodge, on voit quand même... il y avait 3 centres. Le principal, c'est celui qui d'ailleurs, dans la tradition, a essaimé la technique dans d'autres villages, dans d'autres provinces. Donc c'est un centre qui est connu. Un voyageur chinois du XIIIe siècle en parle déjà. Et... pardon. Un des villages, on y est allé, il restait 2 maisons qui faisaient de la poterie parce qu'il y a eu des usines textiles qui se sont montées et que ben, c'était bien plus rentable d'aller travailler à l'usine hein, que de faire des pots. Voilà. Et du coup, c'est en train de disparaître complètement. Il continue à faire un seul type de pot, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a, qui est utilisé par les orfèvres. C'est une toute petite marmite. Il fait 10 cm de diamètre, et qui casse souvent, et puis ils font fondre l'or là-dedans. Comme s'il ne peut pas trouver d'autres creusets, enfin bon, mais du coup, ils continuent à faire cette petite fabrication-là. Mais moi, j'avais des photos de ce village qui était magnifique, avec des choses magnifiques, mais qui sont les enquêtes des années 60-70, bon, avant les Khmer Rouges. Et donc, bien déçu de voir. Alors maintenant, ils ont des magnifiques. Toi en tôle, ça ne ressemble plus du tout au village traditionnel parce que ben, ils se sont enrichis et puis ma foi, c'est bien d'avoir un toit en tôle quand il y a la mousson, hein, même si ça fait moins bien sur les cartes postales. Hein. Voilà, donc ça c'est vrai pour un village, pour l'autre. Ben, pour l'autre, il y a des Japonais qui s'installent, qui utilisent donc la main-d'œuvre potière, mais pour se mettre à faire des grès japonais avec des fours à chambres multiples, etc., etc. Il y a des Allemands qui sont venus là-bas, qui font des jarres avec les potières, mais qui vont vendre en Allemagne à prix d'or. Et puis elles gagnent aussi, toujours aussi mal leur vie. Alors elles continuent à faire leur peau traditionnelle, là, mais parce que beaucoup de villages les apprécient, ils ont quand même une bonne qualité. Mais quand on rentre dans les maisons, on voit quand même plus de gamelles en alu que de peaux en terre, hein, même chez les potières. Donc voilà, ça existe encore, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Et quand je suis arrivé à Phnom Penh avec des vases que j'avais achetés, ce centre qui est quand même important, qui était important, est à 80 km de Phnom Penh, et on me disait, mais vous avez trouvé ça où, d'où ça sort? Voilà. Ben, la ville, c'est fini. Personne ne va utiliser ça, la ville.
On utilise la poterie sur un certain type de carburant, enfin la usine en gros. Et que quand on change de carburant, on n'a plus besoin de poterie.
Oui, mais à la limite, sur le carburant tel que bois ou charbon de bois, les vases en métal, ils fonctionnent très bien aussi. Hein. Alors c'est vrai qu'à la ville, il y a moins de... On ne va plus utiliser le charbon de bois dans la cuisine, évidemment, on passe à d'autres combustibles. Mais ce n'est pas seulement ça qui fait que ça disparaît, c'est aussi que ça... Il y a le problème de l'image de la modernité. Et ça, c'est... Bon. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Montrer qu'ils évoluent, qu'ils sont modernes, et qu'ils ne mangent plus dans les pots en terre, qu'ils vont acheter du... Bon. Quand je vois, moi, la dernière fois que je suis allé au Maroc, il y a un an, jour pour jour, ça faisait 20 ans que je n'avais pas mis les pieds. J'étais dans la Médina en pensant, j'ai mangé des brochettes et un joli petit tagine. Et qu'est-ce que j'ai vu? Les rues entières de Médina, tacos, pizza et hamburger. Dans la Médina, pas quartier. Ben non, c'est ça qui est... Hein, faut faire jeune, faut être moderne, faut manger comme les Européens, il faut manger des tacos et de la pizza.
Donc. Bertrand de Saussier, ingénieur de recherche, un message.
Tu as parlé de manière assez anecdotique du travail des enfants tout à l'heure. Est-ce que tu as remarqué à certains endroits et à certaines étapes en particulier, le travail des enfants? Et est-ce que ça peut faire écho à quelque chose dans l'Antiquité?
Alors, là, c'est le problème justement des transpositions. Mais je pense, oui, que de toute façon, dans les familles pauvres, les enfants, ils font partie de la... ils sont là aussi pour nourrir de la famille, enfin, pour contribuer à l'effort familial, quand ils ne sont pas là justement pour justement être la garantie de, pour les parents. Hein. Alors, il serait qu'il y a une différence dans les villages ateliers traditionnels, par exemple. Les petites filles apprennent à faire de la poterie très très tôt, mais elles vont quand même à l'école, c'est pas au détriment de... Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Toutes les mères ont appris très tôt avec leur mère à faire de la poterie, et petit à petit, elles progressent, et puis voilà, quand elles sont adultes, elles sont parfaitement formées. Mais l'école, souvent, c'est par demi-journée. Donc la fille est à l'école le matin, et l'après-midi, elle aide sa mère à la poterie. Dans les ateliers semi-industriels, dans les grands centres, là, je suis moins sûr, je pense que... Bah, c'était aussi le système des apprentis que nous, on a connu pendant des générations. Hein. Les gamins, à 12 ans, ils apprenaient à bosser. Il n'y a pas si longtemps, faut pas remonter à l'époque médiévale pour qu'il y ait des gamins dans les mines. Voilà, donc ça... Je ne crois pas que les gamins bossent. Le nombre de tapis qui sont faits par des enfants dans le monde... Alors ça a tendance à diminuer parce qu'il y a une, voilà, il y a quand même des organismes qui font pression pour que ça disparaisse. Mais c'est vrai que économiquement, c'est intéressant de faire travailler les enfants. Hein? Mais, quand ils sont payés à coups de taloche.
Mais est-ce que leur taille, par exemple, la petite taille ou des petites mains, ça peut être utile dans certaines étapes pour charger un four ou pour décoller.
Il y a beaucoup d'endroits oui, j'ai vu travailler les enfants dans les ateliers, mais c'est plus dans les grands centres, ateliers semi-industriels, à Fès, que j'en ai vu beaucoup. Pour le défournement, c'est par exemple pour enlever toutes les pernettes des bols vernissés, etc., au sortir du four, alors que les vases sont encore chauds et qu'on se brûle un peu les pinceaux. Là, c'était une ribambelle d'enfants qui faisait ça. Vous avez des chiffons, hein, quand même. Bon, on ne parle pas. éviter qu'ils se brûlent trop. Et puis vous avez vu les photos, le broyage de l'argile, la plupart des photos que je vous ai montrées, c'est que ce soit en Afrique ou au Maroc, c'était des gamins. Ça fait du sport, hein, ça pourrait dire aussi.
Des réflexions de M. Marty pour comparer un peu le travail d'un potier à charnière du 20e et du 21e siècle sur le devenir des artisans potiers en France.
Je suis déjà d'une génération un peu passée, alors je suis un peu inquiet parce que bon, ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes potiers, effectivement, de s'en sortir actuellement, surtout cette année en plus. Bon, après, le monde des potiers est très... rencontrer tout un panel de fonctionnements très différents. Bon, moi je sais que personnellement, mon but c'était d'être potier au sens fabriquer des pots, qui est un usage, sans aucune prétention autre, c'est-à-dire, effectivement, j'ai le goût des formes, j'ai le goût de l'émail, mais bon, si déjà j'ai pu réaliser mon métier de potier, satisfaire les personnes qui acquièrent mes poteries dans un usage quotidien, je trouve que déjà c'est une grande joie pour moi d'avoir fait ce travail toute ma vie. Bon, on se fait un travail un peu tout seul, qui n'a pas le manche, enfin, qui peut paraître très différent effectivement de ce que l'on a vu ce soir et puis de ce qui se passe dans les pays où la poterie était essentielle. Bon, nous, c'est un choix. Mais bon, je pense qu'effectivement, il y a aussi cette volonté de transmettre justement se passer dans ce choix de métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui a un sens, qui a une continuité. Bon, j'ai fait ma deuxième cuisson primitive ce week-end. On a toujours envie de faire des choses, de chercher plus loin, de comprendre. Et donc, c'est un matériau tout simple, mais qui permet plein de choses, et ça, c'est vrai que c'est... Dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est vrai que je considère ça comme une chance. Alors, bon, bien sûr, c'est un boulot quand même pour en vivre. Bon, moi, j'en ai vécu toute ma vie, quand même. C'est pas forcément vécu de façon facile, mais effectivement, il faut bosser beaucoup pour gagner sa vie. Et quand vous disiez que il fallait tourner 250 kilos de terre, oui, c'est ce qu'il faut tourner. Bon, en travaillant seul, moi, je reçois les clients, je fais autre chose, je peux pas tourner 250 kilos, mais si une journée j'ai envie de tourner 250 kilos, je peux le faire, quoi. Et bon, alors, c'est vrai que dans les potiers aujourd'hui, on a de tout, il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui en vivent pas, parce que ils ont les moyens de vivre autrement, soit un couple ou l'autre a une profession beaucoup plus rentable. Mais bon, moi j'ai toujours voulu vivre de mon boulot, et donc, n'ayant pas eu de formation artistique, je trouve que j'ai une profonde admiration pour tous les potiers. Quand on voit les formes qu'on a vues ce soir, quand on voit toutes les cuissons primitives en Afrique, j'ai vu pas mal de documentaires là-dessus où il y a vraiment des très belles œuvres. Je pense que tout le monde est un peu créateur et que les potiers des Bourzis qui faisaient une poterie utilitaire, qui servaient dans la cheminée, quand je touche ces poteries, quand je vois ces formes, elles m'émeuvent beaucoup, et je pense que dans toutes les poteries, on voit un peu la trace de l'homme qui les a faites, quoi. cette impression que j'ai eue la première fois au Ferrival de Sous, où vous triez des mobiliers datant de fouilles de plus de 50 ans, enfin de plus de... Oui, les fouilles ont eu lieu déjà dans le passé. Des étudiants écartés tout un nombre de colis fichés qui étaient très nombreux, et Philippe leur a dit non, ça on le garde. Et moi, la première fois que j'ai mis mes doigts là où le petit avait réalisé ce colis fiché, ça m'a fait quelque chose. Quoi. Voilà, donc c'est un peu tout ça quoi, qui nous anime, je pense. Et ce week-end à Le Zoo, on n'était pas très nombreux sur 35 potiers de notre association, on était 5 ou 6, mais on partage beaucoup de choses à ce niveau-là. Quoi. Mais je pense que Camille peut peut-être ajouter quelque chose. Vu que...
pas grand-chose en réalité, j'en parle très bien. Moi je triche, en fait, je suis pas céramiste, du coup je...
Je ne connais pas depuis très longtemps.
Moi, je suis en résidence en tant qu'artiste céramiste à Le Zoo, mais à la base, je suis surtout cinéaste. Et du coup, je fais des sculptures et je ne tourne pas du tout. Donc, je parais très admirative de tous ces gens que je vois tourner avec des bouts de bois. Et ça a l'air tellement difficile. Déjà un tour de chez Serradel d'aujourd'hui, je trouve ça très, très énigmatique comme objet, et je suis presque frustrée de voir que des images fixes. J'aurais envie de les voir activer tous ces tours et tout ce matériel, parce que ça a l'air de demander vraiment une très grande technicité. Et du coup, bah, moi, je ne peux pas trop parler de la poterie.
Ce qu'on ne voit pas en effet dans ces images, c'est que les potiers que j'ai vus, que ce soit au Maroc ou ailleurs, n'hésitent pas à changer de sens pendant qu'ils tournent. Sur un pot, il change de sens, de rotation, ce qui, pour beaucoup de potiers, est un non, enfin, c'est quasiment une impossibilité. Ils font ça comme ils respirent, sans aucun problème.
Oui, mais justement, pour que ce soit comme on respire, c'est un peu le problème de notre époque actuelle. Je rencontre beaucoup de gens qui passent à mon atelier, et quand j'essaye de leur expliquer comment étaient faits les cuvées avec des gros boudins, comme vous avez pu l'expliquer tout à l'heure, et que ces personnes qui font des potières africaines, qui commencent dès l'enfance à faire ces pots et qui feront ces pots jusqu'à la fin de leur vie, ils ont une maîtrise incroyable qui est due à la répétition du geste, à l'observation, parce que bah, tout ça c'est important. Moi je sais que, encore récemment, je m'aperçois que des fois en tournant, je trouve un geste qui va mieux qu'un autre. C'est pas moi qui l'ai inventé. Souvent, en réfléchissant, c'est le copain Franck Potier qui faisait ce geste-là que j'ai emmagasiné dans ma tête sans me rendre compte. Et actuellement, quand j'explique ça à certaines personnes qui s'initient à la céramique, qui font de la sigillée parce que c'est à la mode, ça les fait rigoler, et puis ils disent non, c'est pas artistique, quoi. faire le même geste. Oui, mais pour arriver à avoir des belles formes, il faut faire le même geste une multitude de fois. Et ça, c'est vrai que c'est notre époque actuelle à l'encontre de tout ça, quoi. Il faut que ce soit vite fait, on n'a pas besoin de technique, on n'a pas besoin d'expérience, et bon, c'est un peu...
Pour en fait, un peu cette façon de voir...
C'est l'antithèse de l'artisanat traditionnel.
Ouais.
Toutes ces archives photos, tous ces films, finalement, comment est-ce que tu vas faire perdurer cette connaissance-là, la transmettre? Parce qu'il
Le fait est que je regrette beaucoup que on n'ait pas pu, à la fin de ces enquêtes, faire un gros bouquin sur tous ces ateliers. Alors, en même temps, une partie de ces archives, c'est aussi toute la collection de céramique qu'on avait ramenée au laboratoire. Et comme ça devenait encombrant, j'ai voulu proposer tout ça au musée des Confluences. Eh bien, ils n'ont pas la place. C'est trop gros, etc. Ils voulaient bien prendre 10 vases sur les 200, 150 qu'on a. Alors finalement, comme on avait fait un travail sur la céramique modelée, j'avais publié quelque chose dans un bouquin qui s'appelle justement « Par les mains des femmes » qui est sur la céramique modelée d'Afrique du Nord. j'ai sélectionné au moins tous les vases qui correspondaient à la céramique modelée et je leur ai donné, moi, toutes mes archives photos. Ils ont la thèse, ils ont tout ça, quoi. Mais c'est vrai que les films, moi, j'aurais voulu les exploiter davantage. Parce que je dois faire un film par atelier. Ça, c'est évidemment un condensé pour montrer la diversité. Mais évidemment, j'ai 20 heures de rush.
On va peut-être terminer la soirée sur ces derniers mots, sur la transmission de données. Donc, encore mille fois, merci Armand.